Je me demande si l'église de Corinthe n'est pas en fait le miroir de toutes les églises du monde, traversées de conflits, de malentendus, de dérives en tout genre, sexuelles, théologiques, relationnelles, spirituelles, mais aussi d'espérance, de pardon de grâce, d'amour, de désir de suivre le Seigneur. Dans la communauté de Corinthe, c'était à celui ou celle qui serait le plus spirituel, le plus croyant, le plus affûté théologiquement, ou le plus puissant dans la prière. Et c'est ce à quoi Paul va s'attaquer aujourd'hui. En posant finalement cette question, et je vous la pose, qu'est-ce qu'être véritablement spirituel? Qu'est-ce qu'être véritablement baptisé du Saint-Esprit? Ce chapitre 12 que nous allons traverser ensemble va nous donner des clés, je pense, pour penser notre vie spirituelle ou la repenser, cette vie à laquelle nous sommes tous appelés, pas seulement quelques-uns. Nous lisons les trois premiers versets. Pour ce qui concerne les dons spirituels, en fait, il n'y a qu'un mot, on pourrait dire les spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs, comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle remettre les pendules à l'heure. À ces frères qui se prennent pour des athlètes dans la foi, des champions de la vie spirituelle, Paul s'adresse avec des mots très forts en leur disant « Les amis, vous avez tout à apprendre. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. » C'est une autre manière de le dire. Si les soi-disant experts du Saint-Esprit ne sont en réalité que des ignorants, selon Paul, alors, oui, posons la question, qu'est-ce qu'être spirituel? Qui est inspiré? Et à quoi reconnaît-on que l'Esprit est à l'œuvre en nous et dans l'Église? Cette question, on n'est pas sans l'ignorer, soulève des grandes questions au sein du protestantisme, un débat assez vif. Et en regardant comme ça, d'un coup d'œil simple, on pourrait se dire qu'il y a d'un côté des églises spirituelles et puis de l'autre côté des églises traditionnelles. Les unes plus ou moins inspirées. Mais la réponse de Paul est là d'une simplicité évangélique et elle me fait personnellement beaucoup de bien. Et je voudrais partager ce bonheur avec vous. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Jésus est Seigneur. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Alléluia. C'est la confession chrétienne, la confession de foi chrétienne la plus courte, la plus simple. Et nous l'entendrons tout à l'heure dans la bouche d'Antoine. C'est tout? Mais oui, c'est tout. La bonne nouvelle est là. Personne ne peut dire ces trois mots. si ce n'est par l'Esprit-Saint. C'est le signe le plus simple, le plus convaincant de la présence de l'Esprit dans ta vie, ma sœur, mon frère. Quand tu déclares que Jésus est ton Seigneur, avec un cœur plein de foi, tu es rempli du Saint-Esprit. Alors au lieu de se perdre en diagnostic spirituel, un peu nombriliste, sur la qualité de notre foi personnelle et communautaire, au lieu de prendre la température de notre spiritualité, est-ce que je suis froid, est-ce que je suis tiède, alors tout sauf tiède, hein, d'après ce que j'ai lu au passage, est-ce que je suis bouillant, est-ce que pour Dieu, est-ce que je suis chaud, laisse donc faire en toi l'Esprit Saint. Et ensemble, accueillons cette très simple profession de foi comme la marque la plus sûre de notre santé, de notre bonne santé spirituelle. Arrêtons de nous inquiéter de nous-mêmes. Laissons faire l'Esprit. Il inspirera en nous cette parole fondatrice et suffisante. On peut même le dire ensemble maintenant. Jésus est le Seigneur. Encore ? Jésus est le Seigneur. Amen. Alors maintenant que l'essentiel est dit, on peut poser aussi une question, qu'est-ce que ça change dans la vie, la présence de l'Esprit ? Et on continue notre lecture, à partir du verset 4. Paul continue, « Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. » Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. C'est ce que l'Esprit Saint met en mouvement, ce qu'il donne, la première observation que je ferai, c'est de dire, cela dépend des personnes, ce qu'il donne. Il serait, je le crois, tout à fait contraire à l'enseignement de Paul, de vouloir normaliser l'expression des dons spirituels dans l'Église. Tout le monde doit avoir ce don-là pour être vraiment baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce même Esprit qui agit en tous distribue à chacun, en particulier, comme bon lui semble, parce que lui connaît les besoins de l'Église. Et alors là, Paul va se lancer dans une liste d'exemples de charisma, de dons, et la liste, il ne faut pas l'entendre comme une liste exhaustive, hein, où il faut cocher, vous voyez, hein, ton des langues, cocher, ton guérison, cocher, etc. Non, si Paul avait parlé à des chrétiens du 21e siècle en Gironde, je dis au hasard ça, il aurait souligné l'importance d'autres dons spirituels peut-être, en parlant peut-être aussi de compétences, de talents pour être dans le langage d'aujourd'hui. Il dirait que l'un est de toute évidence à sa place dans la prière. Un ou une autre dans l'écoute bienveillante. On en a besoin. un autre, une autre, encore. Ah oui, elle sait mettre les nouveaux qui entrent dans l'église immédiatement à l'aise avec un truc. L'humour, la joie, l'amitié. Un autre a toujours la parole qu'il faut pour apaiser et pour prendre soin, ou un regard quelquefois. Un autre, c'est le roi de l'animation, et il en faut. Et un autre, celui de la gestion du bien commun. Rigoureuse et non culpabilisante. Il faut un sacré don de l'esprit hein, pour ça. L'idée, dans ce texte, c'est la diversité, et non l'exhaustivité, ou, et encore moins alors, la normalité. Tout cela en vue de l'utilité commune. Et comme les besoins à Corinthe et à Pessac ne sont pas exactement les mêmes, il faut être attentif aux dons que l'Esprit inspire aux uns et aux autres pour le bien de la communauté corps du Christ. Et c'est ce que Paul explique maintenant dans la suite du texte, à partir du verset 12. En effet, alors j'ai peut-être loupé la diapo, non ? C'est possible. Hein ? En tout cas, j'ai le texte à lire, donc c'est essentiel. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps? Paul compare ici la communauté à un corps humain. L'image est toute simple et sans doute très parlante, surtout pour les personnes qui sont dans la santé, dans la médecine, la biologie. Chacun a des capacités, des dons différents, tout comme les parties et les cellules du corps humain jouent leur rôle au service de l'ensemble. Bien. L'Église n'est pas un grand cœur, plein d'émotions, ou une immense paire de jambes, très agitée, toujours en train d'entreprendre. Elle n'est pas un œil géant qui scrute le degré de sainteté de chaque membre. Non. Le message est simple, la diversité, c'est la vie. Et c'est dans la complémentarité de toutes ses fonctions, de toutes ses aptitudes, ses talents, ses compétences, que le corps devient, non seulement corps, mais qu'il devient vivant. Paul va aller un peu plus loin encore. Je sais pas, j'espère que cette fois-ci, c'est à partir du verset là, je crois que c'est bon. Je dois avoir le texte normalement. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main « j'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps. Mais les différentes parties ont toutes un égal souci, les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ. Et chacun de vous est une partie de ce corps. Paul est en train de dire à ses amis corinthiens, arrêtez de vous toiser mutuellement, de vous comparer pour savoir qui est le plus spirituel, le plus engagé, le plus saint, le plus biblique, le plus tout ce que vous voulez. Vous êtes tous différents. Et cette diversité, c'est la volonté de l'Esprit Saint pour l'Église du Christ. Mais cette diversité n'a de sens que lorsqu'elle est mise au service de l'ensemble. Il ne faut pas voir l'unité comme une sorte de, vous voyez, de juxtaposition, comme ça, d'addition, d'empilement des charismes, des dons. Mais plutôt, je crois que l'unité se rend active dans l'interdépendance. Ce n'est pas le même programme. On peut dire que l'Église n'est pas une vitrine où chacun est bien à sa place, dans son rôle, mais elle est un laboratoire d'expérience spirituelle et communautaire. Et en particulier, l'expérience de l'interdépendance. Et puis, entendez aussi que l'Église idéale n'est pas l'Église où tout le monde va bien. Où tout le monde est fort. C'est une Église où les personnes fragiles ont une place. Les personnes originales, les personnes, ce que vous voulez, celles qui ne rentrent pas, vous savez, dans les formats, les cases. Elles ont une place tout aussi importante, plus importante encore, si j'ai bien lu, que celles qui vont bien. Il faudrait s'entendre après sur ce que c'est qu'elle est bien. Nous y viendrons une autre fois, sans doute. L'Église, c'est non seulement la fin de toute hiérarchie, mais il s'y installe un ordre nouveau, celui du renversement, celui du règne de Dieu tel que le Christ l'a annoncé, prêché. Dans ce renversement, les petits sont grands, les derniers sont premiers. Je voudrais conclure en ramassant un petit peu ces éléments avec finalement trois choses. Premièrement, Paul rappelle l'importance du corps. Nous en avons parlé aussi dimanche dernier. Dans cette église de Corinthe, où l'on valorisait plutôt la performance spirituelle aux dépens des réalités charnelles, humaines, qu'on méprisait, Paul va prendre les Corinthiens à contre-pied. Vous voulez comprendre ce qu'est l'Esprit Saint ? Vous voulez qu'on parle de spiritualité authentique ? D'accord. Pour cela, eh bien, je vais prendre l'image du corps. Je vais vous donner un cours d'anatomie. Vous voyez, pour des gens qui méprisent le corps, c'est quand même, si ce n'est pas de la provocation, ça, j'y comprends rien. Hein. Cette épître, la première aux Corinthiens, n'arrête pas de parler du corps. Le mot, j'ai regardé sur une concordance, il est employé plus de 40 fois. Paul évoque d'abord le corps du crucifié, puis le couple comme corps, le mariage, la sexualité. Il parlera aussi de la consommation de viande, du pain de la Seine, de la résurrection des corps. Mais en fait, ce n'est pas pour provoquer que Paul utilise ça. C'est parce que le mot « corps » est au cœur de notre christianisme. Dieu a pris corps en Jésus le Christ. Dieu n'est pas une réalité gazeuse qui plane au-dessus des mondes. Notre foi chrétienne confesse le Dieu qui vient, qui s'incarne, qui prend chair en Jésus. Et c'est dans cette incarnation-là que se trouve prononcé, proclamé le mot « bonne nouvelle ». Notre foi doit, elle aussi, prendre corps, s'incarner dans de nouvelles relations, de nouveaux engagements, pour témoigner du Christ dans le monde qui est le nôtre, soulager la souffrance, bien sûr, combattre le mal sous toutes ses formes. Le témoignage chrétien s'inscrit dans le réel, pas dans le virtuel ou dans le communautaire coupé du monde. On dit souvent, je l'entends, vous l'entendez sûrement aussi, que les religions s'occupent de l'âme, de l'âme. Je crois qu'il est urgent que l'Église se préoccupe à nouveau des corps, de la vie telle qu'elle est dans sa réalité matérielle, corporelle, spirituelle, humaine. Ne laissons pas le virtuel, le tout numérique, imposer leur vision désincarnée, appauvrie du monde, et renouons avec l'humain, avec la rencontre. Peut-être pas encore avec le bisou à la sortie du culte, hein. Soyez prudents. Parce que ça, c'est l'humain selon le cœur de Dieu. Lui qui s'est fait corps, corps supplicié, corps ressuscité, nous appelle à faire corps ensemble et à être une fois incarné dans le monde. Et aujourd'hui, avec le baptême d'Antoine, nous redisons que la relation avec Dieu est bien sûr verticale, intérieure, personnelle, mais elle est aussi commune, partagée, horizontale, fraternelle. Le baptême est le signe de notre appartenance personnelle à Jésus-Christ, oui, mais aussi le signe de notre agrégation au corps de Christ qui est l'Église. On n'est pas chrétien tout seul dans son coin, Antoine. On fait route tous ensemble avec nos corps en difficulté, avec nos corps pleins de vie, en faisant corps les uns avec les autres. Parce que isolés, sans communauté, nous dépérissons. Et sans nous, sans toi, la communauté dépérit. Nous ne sommes pas seulement solidaires, nous sommes interdépendants. Vous, c'est le dernier verset, le verset 27. Vous, écrit Paul, vous êtes le corps du Christ, chacun pour sa part. Et face à l'immense diversité que représentent nos parts, face à ta différence, Antoine, et à ma différence, face à ta différence, mon frère, ma sœur, et face au défi de l'interdépendance à laquelle nous sommes appelés ce matin, j'ai envie de dire un seul mot. Merci. Merci à Dieu qui te donne à moi comme sœur, comme frère, et qui me donne à toi comme frère. Merci à l'Esprit Saint qui réalise, dans la douleur quelquefois, mais surtout dans la joie, ce miracle permanent qu'est l'Église. Amen.